6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
La guerre frappe le Soudan depuis un an aujourd'hui et les espoirs démocratiques de 2018 semblent lointains. La crise humanitaire, elle, est extrême. Les civils victimes des combats, des violences ethniques et sexuelles fuient comme ils peuvent, tentent d'échapper à la famine qui guette. Pourtant, aucune perspective de résolution ne semble se dessiner. Alors comment expliquer un tel enlisement du conflit? Comment comprendre également l'indifférence de la communauté internationale à l'égard de ce drame? L'absence d'action diplomatique d'envergure? Pour en parler, je reçois ce matin Alice Franck. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, vous êtes chercheuse également à Paris 1, Panthéon, Sorbonne, spécialiste donc du Soudan. Et il faut tout d'abord revenir aux origines de ce conflit qui oppose d'un côté l'armée régulière menée par le général Al-Bourhan et de l'autre les FSA, les forces de soutien rapide, une milice paramilitaire avec à sa tête le général Emeti. Pourquoi sont-ils entrés en guerre il y a un an ?
Oui, bonjour. Ils sont rentrés en guerre parce que, bon, il faut remettre ça dans le contexte de la révolution, hein. Donc, il y a eu un très beau mouvement révolutionnaire au Soudan en 2018-2019. Et ces forces militaires et paramilitaires qui étaient alliées, hein, que les militaires, il faut bien comprendre que les forces paramilitaires émanent, en fait, des forces militaires, ont été créées par les forces militaires pour régler un certain nombre de conflits par la violence, ne se sont pas entendus après le coup d'État d'octobre 2021 pour le partage du pouvoir. Donc il y a eu un affrontement que beaucoup pensaient qui serait bref, et en fait les forces en présence sont tout à fait équilibrées, et le conflit depuis s'enlise, chacun des camps ne voulant pas céder la place à l'autre et pouvoir continuer à exploiter les ressources du pays et le gouverner. Donc c'est vraiment une crise de pouvoir en fait, une guerre de pouvoir.
Des forces équilibrées, dites-vous, un conflit qui s'enlise, cela signifie que a priori personne, aucun des deux camps ne prend le dessus pour le moment ?
Pour le moment, alors d'une part c'est très difficile de savoir exactement où en sont les forces en présence, hein, parce qu'il y a peu de journalistes qui couvrent le conflit, hein. Les informations qui circulent sont peu vérifiées, mais on va dire que l'armée régulière a subi un certain nombre de revers, hein, avec la perte de Khartoum depuis le début du conflit, avec la perte de la ville de Oued Medeni il y a quelques mois, et depuis quelques semaines, il y a les frémissements d'une reprise en main, on va dire, de l'armée régulière sur les forces paramilitaires, sans que aucun des deux camps ne se départage.
Qu'en est-il, Alice Franck, de l'accaparement des ressources? Vous avez expliqué que c'était un enjeu central de ce conflit, les ressources du pays. Qu'en est-il? De quelles ressources parle-t-on?
Alors, il y a le Soudan a de nombreuses ressources, hein, mais on va dire que depuis la perte des ressources pétrolières, le gouvernement avait fait un gros virage sur les ressources minières et notamment sur l'or, qui continue d'être exporté, on va dire via l'Égypte, hein, de façon en clandestinité, hein, par les deux forces en présence. Mais il y a d'autres ressources, il y a la gomme arabique dans lesquelles, par exemple, la France est très engagée. Le Soudan est le premier producteur de gomme arabique au monde. Si la gomme arabique se conserve, ça va être tout à fait problématique dans les années à venir.
Vous avez bien précisé également qu'il s'agissait d'une lutte pour le pouvoir, mais par rapport à cela, comment est-ce que les civils se positionnent face à ces généraux ?
Alors, il faut d'abord préciser, hein, que les civils sont pris dans le conflit, mmh, contre leur gré, hein. Donc il y a eu des appels à ne pas s'armer, à résister pacifiquement. Il faut aussi préciser que ce mouvement révolutionnaire avait cette caractéristique d'être pacifique, qu'aujourd'hui c'est la plus grosse crise humanitaire au monde, hein. On a plus de 8 millions de déplacés et de réfugiés, qu'on a entre 15 et 18 millions de personnes en insécurité alimentaire. Donc c'est considérable qu'il y a plus de de centres de santé. Donc les civils fuient massivement, hein, ont fui massivement les combats, se sont repliés dans les provinces qui étaient jusque-là épargnées, mais elles sont de moins en moins nombreuses. Donc voilà, les civils ont massivement pris la fuite et ont massivement peu pris parti. Cependant, depuis quelques mois, les deux camps arment les civils. On a des appels qui reste important à ne pas prendre parti, mais il y a aussi des phénomènes effectivement de militarisation de la société.
Vous l'avez dit, hein, Alice Franck, des civils en première ligne, une crise humanitaire également absolument dramatique. On parle également de viols et de crimes ethniques, en particulier au Darfour. En janvier, un rapport de l'Organisation des Nations Unies rapportait cette situation terrifiante. Comment est-ce que vous décririez cette dimension ethnique du conflit ?
Alors, je pense qu'il y a deux points. Il y a une dimension ethnique au Darfour qui est plus exacerbée parce que le conflit du Darfour n'était pas fini. Hein. Ce conflit qui a commencé en 2003 était toujours sur un mode sourd, hein, assez présent. D'autre part, parce que les forces paramilitaires que vous avez appelées les Rapid Super Forces, qu'on appelle les RSF, mm-hmm. dirigées par Emiti, sont originaires du Darfour. Et sont donc partie prenante de ce conflit, à la fois parce qu'ils ont été enrôlés pour régler la question du conflit au Darfour, et d'autre part parce qu'ils en sont originaires et font partie des populations qu'on appelle les Arabes du Darfour. Donc ça, voilà, il y a deux choses. Donc quand ce conflit a émergé, on va dire que les milices paramilitaires et les forces associées vont avoir une réaction extrêmement violente, notamment dans la ville de Djenena, avec des populations qui leur sont opposées dans le cadre de ce conflit, avec effectivement des crimes de masse. Et le rapport de l'ONU fait état de 10 à 15 000 morts dans des fosses communes à El Djenena, donc de façon très dramatique. Après, je voudrais juste rappeler que à une autre échelle, le conflit va renforcer, on va dire, des clivages ethniques plus larges entre, on va dire, les forces régulières qui seraient plus largement affiliées au nord du Soudan et notamment à la vallée du Nil, au nord de la vallée du Nil, et les forces paramilitaires qui seraient plus largement associées aux populations de l'ouest du Soudan.
On se concentre, Alice Franck, depuis le début de notre échange sur le Soudan. Est-ce que ce conflit pourrait s'étendre au-delà dans la région ? On sait déjà à quel point nombre de pays alentours sont ébranlés par ce conflit.
Oui, il y a un risque et ça, on comprend d'autant moins l'inaction, on va dire, de la communauté internationale. Mais oui, il y a un gros risque sur les pays limitrophes et notamment sur les pays les moins largement dotés, on va dire, comme le Sud-Soudan, la Centrafrique, le Tchad, qui sont très en difficulté pour accueillir ces centaines de milliers de réfugiés qui arrivent chez eux, et puis plus largement un risque avec la Libye aussi, hein, régionalisation du conflit.
Au vu du drame, des drames multiples d'ailleurs que vous décrivez, Alice Franck, comment est-ce que l'on explique le peu d'intérêt des journalistes, d'ailleurs comme de la communauté internationale, pour ce conflit au Soudan ?
Alors bon, c'est un peu, disons que la communauté internationale et les journalistes se réveillent aujourd'hui, hein, à l'occasion des un an, et aussi parce que il y a cette conférence à Paris, cette conférence humanitaire sur le Soudan aujourd'hui. Comment on explique, je pense que ça va très vite, je pense aussi que l'actualité en ce moment est extrêmement troublée, donc ça va très vite, la couverture est peu importante. Le Soudan, il y a peu d'enjeux économiques pour les pays occidentaux. Hein. C'est aussi un point important à rappeler. Mais sinon, on ne l'explique pas. Et la diaspora soudanaise, ça fait maintenant un an qu'ils tentent désespérément d'attirer l'attention des journalistes et de la communauté internationale par tous les moyens pour alerter, en fait, sur la dégradation du conflit et les conséquences que ça peut avoir.
Vous l'avez mentionné, une conférence humanitaire sur le Soudan se tient aujourd'hui à Paris. Qu'attendre de ce rassemblement ?
Alors, je pense qu'il faut saluer un événement qui, au départ, cherche à alerter sur la situation militaire et cherche surtout à exhorter la communauté internationale à augmenter les fonds attribués au Soudan et à la crise humanitaire au Soudan. Donc ça, c'est le premier point. Il faut saluer ça. Après, tout ce qui va entourer cette conférence internationale humanitaire, le décorum autour, le coup politique, on va dire, que met en avant la France ou le ministère pour valoriser cette conférence est plus étonnante au sens où il n'y a pas de réel engagement à avoir des pourparlers avec les autorités. Aucune des deux parties n'est invitée à cette conférence, ce qui est bien, mais la société civile soudanaise est invitée dans un événement à part. Donc, je pense qu'il faut vraiment saluer et exhorter la communauté internationale à doter cette crise humanitaire en moyens, parce que pour le moment, le déploiement de l'aide humanitaire est extrêmement compliqué. Les parties en présence ne laissent pas les humanitaires travailler librement. Il y a peu de pressions qui sont exercées internationales sur les parties en présence pour permettre un déploiement normal de l'aide. Donc ça, c'est très important que ça arrive très vite, puisqu'on sait qu'il y a entre 15 et 18 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Et que ça va continuer. Pour les pourparlers de paix, à Jeddah, les civils n'ont jamais été invités et ça n'a jamais abouti à un réel cessez-le-feu.
Merci beaucoup, Alice Franck, d'être venue ce matin au micro de France Culture mettre la lumière sur ce conflit au Soudan qui a un an aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes géographe, chercheuse à Paris 1, Panthéon, Sorbonne et spécialiste donc du Soudan.